RCF. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je vous parle, nous sommes entrés dans le temps du grand silence, de cette courte période de 36 heures où le monde semble abandonné. Cette journée particulière où les tabernacles sont vides, où l'on ne fait plus la génuflexion, où les mariés et les morts attendent. Cette étrange journée que chaque année je vis avec ce sentiment d'un manque et où je regarde le monde continuer à vivre, ignorant peut-être ce qui se joue. Durant cette journée du samedi saint, nous vivons ensemble ce temps de l'absence. Nous expérimentons ce que les disciples ont vécu, à savoir ce sentiment d'abandon, de déception, peut-être d'avoir cru tout simplement en la parole d'un homme dans lequel ils mettaient toutes leurs espérances. À la différence que nous savons que le Christ est ressuscité, que par la mort et par la résurrection de ce Dieu fait homme, eh bien le monde est sauvé. Malheureusement, ce message d'amour, de paix est aujourd'hui bien inaudible. Il est parfois même stigmatisant de se dire catholique, croyant et pratiquant. Il faut dire que l'actualité récente et très certainement à venir ne va pas nous aider à affirmer la beauté du message du Christ. Notre Église, tout comme en écologie, doit se convertir, se mettre en transition, construire une église nouvelle qui soit à la fois réformatrice tout en restant fidèle aux enseignements du Christ et du magistère, dire et faire respecter le dogme sans dogmatisme. Mais je ne peux m'empêcher en ce samedi saint d'être dans l'espérance, particulièrement quand je vois celle de ces nouveaux baptisés qui ont découvert la foi de l'Église, qui ont découvert les textes de l'Évangile et qui souhaitent désormais s'attacher au Christ et sur lequel nous pourrions, nous, les communautés chrétiennes, nous appuyer. Mais la question est-ce que nos communautés sont prêtes à être dérangées par la flamme de ces nouveaux chrétiens issus d'une culture athée, juive, musulmane, qui sont peut-être séparés, divorcés, homosexuels, sexuels, anciens détenus, et qui vivent ce que je pense se rapproche le plus de ce qu'ont dû vivre des apôtres tels saint Paul dans les premiers temps de l'Église, une foi inconditionnelle et pleine d'espérance. Saurons-nous être fraternels? Saurons-nous les accueillir? Et d'ailleurs, je vous pose cette question en ce jour saint. C'est quoi pour vous l'espérance? C'est quoi pour vous la fraternité? Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Écho des Solutions avec un horaire un peu particulier en ce samedi saint, puisque vous venez d'assister aux différentes émissions spéciales depuis Jérusalem. Nous, on se retrouve depuis la France et je vais vous emmener pour cette émission à l'abbaye de Saint-Vendry qui se situe entre Le Havre et Rouen pour aller vous faire découvrir l'activité monastique, l'activité entrepreneuriale d'une abbaye, l'activité économique monastique, puisque vous le savez, selon la règle de Saint-Benoît, il y a deux piliers, enfin même trois piliers, dans la vie monastique. Il y a ora et labora, le travail et la prière, et puis bien évidemment la lecture et la formation qui est le troisième pilier. Nous allons donc découvrir avec le frère Mathieu cette brasserie de bière qui a été créée en 2016, une brasserie tout à fait originale, en tout cas en France, puisque l'abbaye de Saint-Vendry est la seule abbaye à produire en France de la bière, contrairement à nos amis belges. Et puis pour ouvrir cette émission, eh bien je vous propose de partir à la rencontre de Don Didier Le Gall. Don Didier Le Gall est aussi frère à Saint-Vendry, est un spécialiste de la question de la doctrine sociale de l'Église. Et avec lui, eh bien nous allons évoquer la règle de Saint-Benoît comme pilier de management dans les entreprises. En quoi la règle de Saint-Benoît peut-elle enseigner aux dirigeants d'entreprise? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Il est notre invité écho de cette semaine. Et tout de suite après, eh bien on retrouvera le frère Mathieu depuis l'abbaye de Saint-Vendry et nous allons faire ensemble la visite de cette brasserie très particulière. Don Didier Le Gall, c'est notre invité écho de cette semaine, on ouvre tout de suite avec lui.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je vous l'annonçais à l'instant, nous sommes avec Don Didier Le Gall de l'abbaye de Saint-Vendry. Bonjour mon frère.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions en ce samedi saint, cette longue journée, comme je dis, où les tabernacles sont ouverts et où on est dans l'attente et dans l'impatience de la résurrection. Et avec vous, Don Didier Le Gall, on va évoquer une question que je trouvais extrêmement intéressante, particulièrement dans cette émission qui est consacrée à l'économie l'autonomie monastique, qui est le rapport de la règle de Saint-Benoît, de la règle monastique et de son interrogation que l'on pourrait avoir. Comment vient-elle interroger la gouvernance de nos entreprises? C'est ma première question. En quoi la règle de Saint-Benoît et l'entreprise peuvent-elles avoir des points communs, dont Didier Le Gall?
Alors déjà, je voudrais souligner que la règle, c'est une règle écrite au VIe siècle et qui continue à animer les monastères à travers le monde. Ce qui veut dire qu'elle recèle, en ayant traversé le temps et d'une certaine manière l'espace, elle recèle des fondamentaux de la gouvernance, du management, en tous les cas, d'une communauté humaine.
Et quand vous dites depuis le VIe siècle, ça veut dire que depuis le VIe siècle, cette règle n'a absolument pas bougé d'un iota, elle n'a pas été retravaillée avec le temps, avec l'arrivée de la modernité, avec l'arrivée, je sais pas, de la lumière, des téléphones portables, etc. Cette règle, elle reste la même depuis le VIe siècle?
Alors, volontairement, en fait, on n'a pas bougé un iota de la règle et on la lit tous les jours, donc on se l'approprie et naturellement, elle est source d'interprétation en fonction du lieu où on est et du temps où on est. Mais elle recèle des fondamentaux, des triptyques que j'aime bien montrer, qui donnent des orientations et qui permettent en un temps et en un lieu de s'adapter, mais sans changer cette règle fondamentalement.
Alors qu'est-ce qui caractérise cette règle monastique et qui en fait finalement une forme de levier, d'attrait pour le monde de l'entreprise aujourd'hui?
Alors je pense que c'est déjà sa simplicité, c'est-à-dire que très souvent on a des textes législatifs complexes, et là on a une règle qui, quand on la lit, on peut tout de suite sortir des éléments structurants. Donc tout à l'heure je vous parlais de triptyque, on a par exemple cette règle, elle souligne une communauté avec une règle et un abbé. C'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on a une communauté humaine dans laquelle on doit avoir le souci des personnes. On a une règle qui va permettre de gouverner cette communauté et on a une personne, l'abbé chez nous, qui pourrait être le président d'une société, qui doit non seulement dire la règle, mais l'enseigner par ce qu'il est, plus que par ce qu'il dit. Donc ça veut dire que ces trois éléments-là sont des éléments fondamentaux pour une entreprise. Et quand on regarde aujourd'hui l'entreprise à mission, par exemple, on s'aperçoit que on revient à cela. On a une raison d'être, on a des engagements et on a une personne qui va incarner cela.
Il faut aussi avoir une adhésion à voilà. Cette règle. Hein. C'est important aussi ça.
Oui. Alors c'est bon. À un moment donné, il faut limiter la comparaison parce que.
Bien sûr, on peut pas.
La finalité pour laquelle on rentre dans un monastère, c'est la sainteté à travers un mode de vie particulier. Quand on rentre dans une entreprise, les finalités et la raison pour laquelle chacun entre n'est pas forcément exactement la même.
Donc, justement, ce que vous disiez avec les entreprises à mission et particulièrement les raisons d'être d'entreprise, et on le voit bien aujourd'hui chez la jeune génération, la question du sens est primordiale. Et donc, il y a déjà une forme d'adhésion au choix de l'entreprise. On sait bien aujourd'hui que ce sont plus les futurs salariés qui recrutent leurs entreprises que les entreprises qui recrutent leurs futurs salariés. Donc finalement, on retrouve une forme d'adhésion, même si ce n'est pas une adhésion monastique avec cette lignée, ce désir d'expérimenter et d'aller vers la sainteté.
Oui, effectivement, en fait, il y a aujourd'hui une très grande recherche de sens, à tel point que beaucoup de jeunes sont prêts à limiter même leur rémunération à partir du moment où ce pourquoi ils entrent dans l'entreprise fait sens pour eux et donc avec une vision, avec un service du bien commun. Et là, on est vraiment, l'entreprise à mission répond vraiment à ça et la règle, on en est comme un écho ancien qui vient l'illustrer.
Alors vous dites à un moment, parce qu'on a un petit peu échangé des documents et on a un peu échangé avant, vous parlez à un moment dans l'abbaye, mais je pense que ça doit pouvoir aussi s'appliquer au monde de l'entreprise, d'une gouvernance synodale. Qu'est-ce que vous entendez par une gouvernance synodale, Don Didier?
Alors en fait, dans une communauté monastique, naturellement on a un abbé qui gouverne, mais beaucoup de décisions sont le fait d'un partage en communauté. Donc, il y a un aspect participatif qui est très important. C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui va emporter. C'est pas une monarchie parce que ça descend pas brusquement d'en haut. Mais c'est un échange fraternel qui permet de sortir une décision qui, à un moment donné, va être énoncée par l'abbé et donc par l'aspect le supérieur qui va arrêter ce débat et déterminer le choix qu'on doit faire. Mais il y a toujours un dialogue. Mmh. L'objectif, c'est le bien des personnes. Donc, mmh. c'est le bien de la communauté, l'unité de la communauté. Mmh. Donc, la nécessité de consulter, de partager, d'échanger pour aboutir à une décision qui, elle, va être reçue parce qu'elle aura été, chacun aura senti qu'il a été écouté, pleinement écouté, mmh. Pas simplement consulté pour la forme. Et c'est ça qui fait la réussite.
Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre dans la règle de Saint-Benoît par rapport aux entreprises d'aujourd'hui, même si elle n'est pas applicable en tant que telle, puisqu'elle est faite pour une communauté monastique avec un certain nombre de personnes restreintes et une volonté commune de vivre ensemble toute leur vie. Quels sont les quelques éléments intéressants de cette règle de Saint-Benoît qu'on pourrait peut-être adapter ou qu'on pourrait peut-être écouter, entendre, mûrir, méditer pour justement aider à la gouvernance des entreprises?
Alors, je pourrais rapidement en énoncer plusieurs. D'abord, dans des règles plus de management, dans la règle, le premier mot de la règle, c'est « écoute ». « Écoute, mon fils, les principes d'un si bon père ». Le dernier mot de la règle, c'est « tu parviendras mmh. ». C'est-à-dire que pour parvenir à un objectif, le premier élément, c'est l'écoute. Mais pour pouvoir écouter, il faut être en silence. En silence, pas simplement matériel, mais silence intérieur, disposé pour recevoir la parole de l'autre. Donc, silence, écoute, obéissance, c'est-à-dire que l'obéissance, quand on adhère à un projet, on y adhère d'autant mieux qu'on a été franche, vraiment écouté, mmh. et dans une qualité d'écoute. Donc ça, c'est un élément qui est important dans le monde de l'entreprise, comme en famille, comme... Un deuxième élément qui est amusant, c'est celui de la formation. Saint-Benoît dit que le monastère est une école, l'école du service du Seigneur. Et donc, c'est un lieu où on doit toujours apprendre, comme dans l'entreprise, on doit toujours apprendre. La formation est importante. Saint-Benoît dit aussi que le premier élément, c'est presque la raison d'être du moine, c'est chercher Dieu. Mmh. Donc, on pourrait dire que le monastère est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on on a une école où on apprend, on a un laboratoire où on recherche. Et la conclusion de ça, donc, une formation, une recherche pour un chemin de progrès. C'est-à-dire, pour avancer, pour aller d'un état moins beau vers un état meilleur, il faut ces deux éléments préalables pour entrer dans un chemin de progrès. Mmh. Et le baromètre de ça, c'est la joie. Ça me dit, au fur et à mesure que le moine grandit dans la vie de sainteté et d'amour, son cœur se dilate. Mmh. Donc, c'est un bon baromètre pour l'entreprise. Est-ce que la formation, est-ce que la recherche à tous les niveaux, et l'adhésion que ça entraîne, est-ce que ça procure la joie de l'entreprise? Mmh. Alors, voilà, on pourrait décliner l'autorité dans la douceur, on pourrait décliner aussi le don, le pardon, la communion. Mmh. Donc autant d'éléments de grand dynamisme qui permet de souder et de fédérer une communauté.
Alors, on l'a vu dans l'émission qu'on avait faite pour la mémoire du pape Benoît XVI. On avait fait une émission sur la thématique de l'économie, hein, dans la pensée du pape Benoît XVI. On l'a évoqué avec d'autres personnes qui sont plutôt engagées dans les ressources humaines. La question du don aussi est importante, hein, dans le monde économique. Le don dans la fraternité monastique existe, mais le don dans le management de l'entreprise, c'est aussi un levier qui est important.
Oui, alors en fait, il va avec le don, c'est une dynamique de vie en fait, mmh. qui est même présente dans la nature. C'est-à-dire que on est toujours dépendant de quelqu'un. Donc mmh. le don, il est reçu, il est accueilli, il est transmis. On est toujours dans une phase de ce que notre société n'aime pas. Enfin, on est toujours dans une phase de dépendance de quelqu'un. Dans le monde de l'entreprise, on parle peut-être encore de client-fournisseur au cœur même de l'entreprise. Donc, ça veut bien dire qu'on est toujours dépendant de quelqu'un. Mmh. Après, on est autonome, c'est-à-dire qu'on peut très bien accepter ou refuser ce que l'on nous donne. Mmh. Et puis, on peut très bien refuser ou accepter de transmettre. Mmh. Ça veut dire que cette dynamique qui va du don reçu, accueilli et transmis, on peut la rompre, et pour la réparer, il faut toujours qu'il y ait du pardon. C'est comment on reconstitue ce lien, cette dynamique de vie. Et je pense que dans l'entreprise, on parle aujourd'hui des fois du droit à l'erreur, ce qui est un peu plus faible que le pardon, mais c'est pour bien montrer en fait qu'il y a une dynamique qui est fragile, mais qui est la seule dynamique valable, qui est une dynamique où on est tous dépendants pour arriver à une indépendance, une interdépendance.
Donc finalement, c'est ce triptyque, hein, don, pardon, communion, qui est important. Hein, si ce don est rompu, il peut y avoir du pardon qui est exprimé, ce que vous appelez le droit à l'erreur, puis la communion pour pouvoir trouver cette unité. Et comme Pierre Collignon a pris quelques jours de vacances pour le week-end pascal, eh bien moi je vous propose, don Didier, qu'on se quitte. On se retrouvera la semaine prochaine pour une deuxième partie de cet échange, parce que j'aimerais évoquer avec vous la question de la gestion du conflit. On verra justement comment aujourd'hui dans l'entreprise, comment l'entreprise peut être enseignée sur la gestion du conflit par la règle monastique. Mais on fait tout de suite une pause musicale dans l'écho des solutions. Fille de Jérusalem, tirée de la comédie musicale écrite par Patrice et Roger Martineau.
Est-ce donc que tout cela? Qui donc a roulé la pierre et endormi les soldats? Et plié les bandelettes et volé dedans le drap? Le corps béni de mon maître, où est-il? Dites-le moi, fille de Jérusalem. Vous voyez bien comme moi que le corps de mon doux maître ne gît plus. Cet endroit, il n'a pas pu disparaître. Y a-t-il trace de pas que l'on me rende mon maître? S'il vous plaît, rendez-le-moi. Il n'a pas pu disparaître. S'il vous plaît, rendez-le-moi.
C'était Nicole Rieux, Isabelle Gaborio et Laurence Lagier qui interprétaient La visite au sépulcre. Une chanson issue de la comédie musicale écrite par Patrice et Roger Martineau, Marie-Madeleine. Nous, on continue tout de suite dans l'écho des solutions, un écho des solutions qui est consacré à l'économie monastique. Et on retrouve tout de suite depuis la salle des hôtes de l'abbaye de Saint-Vendry, le frère Mathieu, qui est le gérant et producteur de bière de l'abbaye de Saint-Vendry. On le retrouve tout de suite, c'est le dossier de l'écho des solutions.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On est depuis la salle des hôtes de l'abbaye de Saint-Vendry. Je suis avec le frère Mathieu. Bonjour frère.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce week-end pascal. On va évoquer avec vous ce qui permet de faire vivre une abbaye. On le sait bien, une abbaye, depuis la fondation des abbayes bénédictines, a pour devise ora et labora, prière et travail. Alors le travail, bien évidemment, travail des champs pendant de longues années, travail du potager, différentes formes de travail dans les scriptoriums. Alors ça, c'est peut-être un peu plus la vision médiévale qu'on peut avoir du travail des moines. Et vous, à Saint-Vendry, vous avez trois types d'activités différentes. Une activité d'archivage, on ira peut-être voir un petit peu tout à l'heure de quoi il retourne exactement, d'archivage de documents administratifs sous la forme numérique, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Alors non, c'est archivage papier.
Archivage papier, justement. Vous n'êtes pas encore passé
archivage papier. Après, on a aussi une activité de réparation d'œuvres d'art sur trois supports qui sont le bois, le cuivre et la toile. Et après, une dernière activité qui est notre brasserie.
Et qui est toute récente. Voilà. C'est un peu pour ça aussi qu'on est venu jusqu'à vous, non pas pour boire de la bière, mais pour découvrir cette activité de brasserie. Pour en revenir sur la question de la restauration d'art, hein, puisque c'est pas vous qui êtes le responsable de cet atelier, comment est-ce qu'une abbaye en arrive à se former, à être reconnue pour faire de la restauration d'art? Et je vais vous poser la question certainement sur chacune de ces activités qui sont autant... En ce qui concerne la vie monastique et la bière, on peut l'entendre avec vos grands frères Lef, Chimay, qui sont des grandes abbayes belges de production de bière. Autant sur la partie de la restauration d'art, sur la partie d'archivage papier, ce sont des activités assez atypiques pour une abbaye.
Alors assez atypique, je dirais que pour l'archivage, c'était plus une question d'opportunité et de place aussi. Enfin, quand on visitera les locaux, ça prend beaucoup de place et la place on l'avait et l'activité n'était pas très compliquée, donc avec finalement peu de compétences requises. Pour la restauration d'œuvres d'art, là ça dépend vraiment de la personne qui sera en charge, puisque le frère Pascal, selon moi, a quand même un certain don pour trouver les couleurs, retrouver la manière de peindre, etc., qui n'est pas donné à tout le monde. Et
mais
ça, comment, on l'a ou on l'a pas.
Comment on y arrive? C'est pareil, c'est une histoire de rencontre. C'est parce que le frère Pascal travaillait sur des œuvres internes à l'abbaye qu'on a vu quel était son talent et qu'on a décidé d'en faire une activité économique qui permettrait de faire vivre l'abbaye.
D'après moi, sur ce que j'ai pu entendre de l'histoire, parce que l'atelier existait déjà quand je suis arrivé
il y a 10 ans.
Je pense que c'est une histoire de rencontre où on avait une personne très proche du monastère qui avait cette activité-là, qui avait rencontré le frère Pascal, donc ils ont commencé à se connaître, à partager, et elle a décelé un peu en le frère Pascal ce don.
Et il y a eu une forme de transmission.
Il y a eu une forme de transmission, aussi tant du côté technique que un peu sur le côté matériel, etc. aussi.
Donc, et le frère Pascal travaille seul sur cette activité ou aujourd'hui lui-même transmet peut-être à d'autres frères, peut-être à des personnes extérieures au
monastère? Alors, pour le moment, il y a une personne extérieure qui travaille avec lui. À un moment, il y avait des frères. Mais voilà, on est de moins en moins nombreux, donc c'est difficile de caser des frères.
C'est toujours plus compliqué. Il faut aussi faire vivre l'abbaye et les différents services de l'abbaye. Parlons un peu de cette brasserie qui date de 2016, frère Mathieu. 2016, c'est assez récent pour une brasserie. En France, je crois que vous êtes la seule congrégation à faire votre bière, congrégation bénédictine en tout cas, à faire votre bière. Comment est-ce que des moines en arrivent à se lancer dans une brasserie en 2016 sur un marché qui est assez concurrentiel, même si aujourd'hui on revient plutôt à des brasseries peut-être plus artisanales?
Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un gros boom des microbrasseries quand on s'est lancé. Et ce qui nous avait beaucoup surpris quand on a commencé à parler du projet à d'autres brasseurs, c'est qu'il n'y avait pas du tout de concurrence. Au contraire, ils étaient très heureux de revoir une abbaye brassée. Donc on s'est vraiment senti accueillis par le milieu. Ils nous ont même partagé beaucoup de leurs secrets de fabrication ou pour nous faire gagner un peu d'expérience rapidement. Après, comment on a fait et pourquoi on l'a fait, c'est qu'il nous fallait gagner un peu notre vie aussi. Donc, en fait, avant, on avait une activité de numérisation de documents et qui a bien fonctionné à un moment et qui, après, a eu du mal à survivre. Et donc, quand cette activité-là a fermé, on s'est rendu compte que déjà, c'était plus les moines qui y travaillaient. Et qu'il nous manquait un produit vraiment phare à la boutique. Donc beaucoup de touristes demandaient qu'est-ce que vous faites ici, et on leur répondait on fait rien.
C'est vrai que c'est plus facile de vendre de la bière qu'un document numérisé dans une boutique.
Exactement.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est aussi la capacité qu'une abbaye comme la vôtre et comme d'autres abbayes d'ailleurs, cette capacité que vous avez à rebondir, à remettre au centre de votre priorité les valeurs monastiques, c'est-à-dire vous le disiez très justement à l'instant, on s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait plus de frères qui travaillaient dans cette activité.
Voilà. Oui. C'est quelque chose qui nous manquait et même qui manquait peut-être un petit peu à la cohésion de la communauté d'avoir un centre de travail commun. Donc, quand le père abbé a fait une réunion communautaire pour discuter un peu de cette problématique-là, ce qui est ressorti de la première réunion, c'est qu'on voulait retrouver une activité de travail manuel à Saint-Mandry fait par les moines et d'un produit qui soit disponible à la boutique pour que, enfin, comme on dit dans le langage commercial, en B2C et pas en B2B. Donc voilà, pouvoir vraiment un peu témoigner de nouveau du travail de nos mains, que la nourriture finalement, elle tombe pas du ciel dans l'assiette. On est tenu aux mêmes contraintes que ceux qui vivent encore dans le monde. Et donc il faut travailler pour ça.
Alors aujourd'hui, cette abbaye, elle est née en 2016. Racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que choisir de faire de la bière, même si ça s'enracine dans la tradition monastique, et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à la très belle série qui s'appelle Les Maîtres de l'Orge, et tout part justement d'un secret de fabrication de bière dans une abbaye. Comment est-ce que une abbaye comme la vôtre se décide? C'est quoi l'histoire qui fait qu'à un moment donné, on va faire de la bière, sachant que vous en avez jamais fait?
Alors, sachant qu'on n'a jamais fait, à la deuxième réunion communautaire, pour discuter un peu de quelle activité on voulait faire, le père abbé avait demandé à chaque frère de venir avec une idée. Donc, beaucoup de frères étaient venus avec déjà des idées bien précises, en proposant une savonnerie, une boulangerie, un jardin potager, une brasserie, puisqu'on a une porte du houblon dans le cloître aussi. Et on s'est vraiment senti accompagné sur le fait de la brasserie par différents signes du Seigneur, notamment beaucoup de rencontres où le père abbé a rencontré quelqu'un qui nous a offert un kit de brassage. Donc on a commencé à brasser en 20 litres comme ça, sans savoir où est-ce qu'on allait, sans connaître vraiment la bière, mais on a déjà essayé. Après, l'oncle du gérant de la boutique était malteur, donc il nous a fait rencontrer d'autres brasseurs. Et on a aussi senti, sur les essais en 20 litres qu'on faisait, que on va dire que la mayonnaise prenait au réfectoire. On passait les essais au réfectoire et les frères étaient assez contents de boire cette bière, même si entre nous, elle était vraiment pas terrible, les premières.
Les premières, non, c'était pas la joie. Hein.
C'était pas la joie. Mais au moins, les frères avaient le sourire et on parlait de ça en récréation. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait vraiment une cohérence communautaire autour de ça. Donc après, en poussant un peu l'étude, on s'est rendu compte que économiquement c'était viable et que monastiquement c'était tenable.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'était monastiquement tenable? C'est-à-dire que le système, le process de production peut répondre à l'organisation de la vie monastique?
Voilà, à peu près, ou tout du moins on peut moduler un peu la vie monastique pour réussir à faire ça. Sachant que nous, vous disiez en début d'émission que la devise bénédictine c'était ora et labora. En vrai, nos journées se divisent entre trois activités, la prière, le travail et la lecture. Saint Benoît insiste beaucoup sur la lecture. Et donc, il faut aussi que notre travail puisse s'organiser en fonction de ces trois temps-là. Et en fait, la brasserie permet de prier sur place. Bon, on n'a pas le temps de retourner à l'église, mais au moins, on prie sur place, on a un peu de temps. Et elle permettait aussi de faire un travail sur un cycle hebdomadaire. Saint Benoît est très tenu par la semaine. Il impose des charges à la semaine, comme on tourne à la cuisine une fois par semaine, on récite le psautier une fois par semaine, etc. Donc nous, on voulait retrouver un rythme de production qui était la semaine. Beaucoup nous disent « Pourquoi vous n'avez pas fait de cidre ?» Parce que c'est vrai qu'en Normandie, ça avait du sens aussi. Mais le cidre, une fois qu'on récolte les pommes, il faut le faire. Et puis après, on ne fait plus rien le reste de l'année. Enfin, on ne fait plus rien. On fait d'autres activités, mais c'est moins répétitif. Et du coup, la bière avait cet avantage-là d'être aussi répétitif, qui, pour nous, notre activité monastique, nous fait aussi rentrer dans une certaine routine et une certaine prière en faisant toujours les mêmes choses. On récite aussi toujours les mêmes psaumes, les mêmes prières. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en lasse, ça veut dire qu'on les approfondit de plus en plus.
Alors justement, vous vous êtes lancé dans la bière en partant de rien. Vous disiez la seule chose qu'on avait, c'était une porte du houblon dans l'abbaye, mais vous n'aviez pas de houblon. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez chercher votre houblon? Est-ce que vous envisagez peut-être de faire pousser vous-même votre houblon? Comment est-ce qu'on apprend à faire de la bière? Comment est-ce que vous êtes parti vous former à l'extérieur? Comment vous avez construit cette brasserie qu'on va aller visiter d'ici quelques instants?
Alors on a déjà eu beaucoup de littérature sur la bière et puis on a vite senti le besoin de se former. Donc le frère Christian à l'époque, qui était responsable de la brasserie, avait trouvé une formation au lycée agricole de Douai avec Olivier Sénéchal, qui est maintenant décédé. Mais voilà, une formation en 5 jours, qui était très court mais qui était très très réputée parce que Olivier Sénéchal justement il s'y connaissait très très bien. Donc lui et moi avons fait cette formation-là, et puis après on a eu connaissance d'autres centres de formation comme l'IFBM à Nancy, où là moi j'ai fait des compléments de formation, on a envoyé le frère Olivier se former 10 jours là-bas, qui était un peu plus complet. Et puis après c'était beaucoup de rencontres avec les brasseurs, donc du coup pour nous être obligé un peu de sortir du monastère, aller à leur rencontre, mais aussi voir un peu de matériel, etc.
Alors justement, comment ça se passe cette rencontre avec les autres brasseurs? Alors j'imagine que quand on voit arriver un frère tout de noir vêtu dans une formation, que ce soit à Douai ou ailleurs, ça doit déjà un petit peu détonner. Mais comment se passe cette relation avec justement les autres brasseurs quand vous arrivez sur un marché? Je le disais, il y a beaucoup aujourd'hui de microbrasseries, il y a le salon de la bière, il y a des salons de la bière à ne plus savoir qu'en faire, j'ai presque envie de dire. Et quand vous arrivez avec votre bière d'abbaye française, quel regard on porte sur vous? Quel échange? Comment on accueille finalement ce nouveau concurrent qui arrive sur le marché?
Nous, on a été très très bien accueillis parce que déjà, nous, le but, c'était de pas copier une bière. On voulait vraiment être original aussi, retrouver une bière d'abbaye française. Et puis, on a tout de suite été très clair avec les autres brasseurs sur le terme de volume. Enfin, on veut que ça soit que des moines qui travaillent à la brasserie. Donc, Heineken restera toujours au-dessus de nous. Enfin, voilà, on n'a pas un objectif de volume énorme. On veut juste se contenter de ce qu'il nous faut. Enfin, on a un bon équilibre entre la main-d'œuvre disponible monastique, la place disponible, parce que vous verrez que c'est pas très grand aussi, la brasserie. Et puis, finalement, le flux de vente. Donc ça, là-dessus, comme on est sur des petits volumes, nous on fait à peu près 700 hectolitres à l'année. Voilà, on va pas détrôner Cronenbourg ou Goudal non plus.
Mais alors par rapport à vos frères belges, vous les avez rencontrés quand vous vous êtes lancé? Vous vous êtes allé voir un petit peu les pères abbés des autres abbayes pour essayer de comprendre comment on pouvait faire de la bière en étant moine et finalement prendre de leur expérience?
Alors pas beaucoup parce que, et là c'est loin d'être un reproche ce que je fais aux abbayes belges, mais il y a peu d'abbayes belges où il y a encore des moines qui brassent.
Ah oui.
Souvent c'est plutôt des gros volumes, avec des grosses contraintes, parce que pour avoir le logo trappiste, tous les ans ils remettent les comptes à zéro, ils distribuent à des œuvres, enfin donc du coup c'est des contraintes économiques qui sont très très dures à porter, avec chaque année l'objectif d'être bénéficiaire. Mais nous on avait plutôt décidé de vivre la pauvreté d'une autre manière. et de ne garder que des moines à la fabrication. Donc je suis parti voir l'abbaye Saint-Sixte à Vez-le-Teren, qui eux ont encore 5 frères qui travaillent à la brasserie et 5 employés aussi, pour voir un peu comment ils avaient intégré le travail de la brasserie dans la vie monastique. Donc les changements d'horaire, parce que je crois que par exemple, eux quand ils mettent en bouteille, ils ont la messe à 6h45 et toute la communauté part travailler. Mais ils ont une machine qui doit faire 12 000 bouteilleurs. Là, nous, on fait à peine 1 200 bouteilleurs. Donc c'est une autre échelle aussi.
On va justement aller visiter ces deux endroits. Hein. On va aller faire un petit coucou quand même aux archives, à l'archivage papier. Mais on va s'intéresser aussi à cette brasserie que vous nous avez présentée. Et puis essayer peut-être de comprendre aujourd'hui quel goût, quelle production, comment on travaille tout ça, combien vous êtes à y travailler. On ne l'a pas encore dit. Et on va aller découvrir tout ça. Je vous suis. Frère Mathieu, on va jusqu'à la brasserie et à l'archivage en traversant cette abbaye de Saint-Vendry où nous avons posé nos micros pour l'écho des solutions de ce week-end pascal.
RCF, Patrick Longchamp.
Voilà, donc là on est sorti, on traverse cette grande abbaye. Alors une abbaye qui est présente ici, on ne l'a pas dit aux auditeurs, mais qui est présente depuis le 7e siècle à Saint-Vendry, après des périodes un peu agité, révolutionnaire. Dans quelle partie se situe la brasserie exactement?
Alors dans la partie qu'on appelle les communs, où c'était plutôt le lieu du travail des moines. Donc là, on est dans un bâtiment du 13e ou 14e siècle, qui était en fait les anciennes écuries.
D'accord.
Et là où il y avait aussi, où on fabriquait la cire quand les moines sont revenus au début des années 1900. On avait monté une fabrique de cire pour le parquet et les meubles en bois.
Donc énormément d'activités économiques différentes, hein, parce qu'il y a eu un moment où vous étiez allé, je pense qu'on avait dû faire une petite brève dans l'écho des solutions sur la création d'un fonds d'investissement, puis de la cire, maintenant de la bière, de l'archivage, de la restauration. C'est nécessaire pour les moines de se réinventer en permanence sur leur modèle économique?
Là, j'ai du mal un peu à répondre. Je dirais que c'est en fonction de la communauté.
C'est
en fonction des compétences qu'on a aussi à la communauté, des gens qui peuvent venir travailler. Et puis de l'histoire des différentes activités. L'archivage, c'est un résidu de la microcopie, où avant on numérisait. Donc après, pour se diversifier, on avait proposé l'archivage. Et le reste a fermé. Donc
on ouvre une porte.
Donc on ouvre la première porte de la brasserie. Donc on a 3 grandes pièces dans la brasserie. On a la salle à brasser et fermentation. Après on a une chambre chaude pour faire de la refermentation bouteille. Et ce qu'on appelle la salle voûtée, qui est une des dernières salles voûtées de ce bâtiment, parce qu'il a brûlé dans les années 50. Où là c'est plutôt la zone de stockage du produit fini.
C'est combien d'investissements pour lancer une brasserie comme celle-ci vous...
Alors nous, on a eu à peu près 800 000 euros d'investissement.
800 000 euros d'investissement.
800 000 euros d'investissement, dont 400 000 euros dans le matériel et 400 000 euros dans le bâtiment. Parce qu'il a fallu refaire beaucoup de travaux, casser quelques murs, refaire un sol en pente, faire une évacuation des fumées, enfin, ou de la buée, etc. Plus la chambre chaude, plus.
Alors, on est où ici et qu'est-ce qu'on y fait? C'est la pièce essentielle finalement ici?
Alors, ici, c'est la pièce essentielle de la fabrication où on a 3 grandes parties. On a la salle à brasser qui fait 10 hectolitres, donc qui nous permet de brasser 1000 litres de bière. Après, on a 4 fermenteurs de 20 hectolitres chacun. Donc, on brasse 2 jours d'affilée pour remplir un fermenteur. Et en face de ces fermenteurs, on a la soutireuse ou la ligne d'embouteillage qui nous permet de mettre en bouteille. Donc nous, on a fait tourner à peu près 1200 bouteilleurs pour embouteiller un fermenteur, donc 2000 litres en 4 ou 5 heures de temps.
Alors aujourd'hui, c'est combien de milliers de litres que vous produisez chaque année, frère Mathieu?
Aujourd'hui, c'est à peu près entre 650 et 700 hectolitres. Donc voilà, les bonnes années, on peut monter jusqu'à 140 000 bouteilles, puisqu'on fait des bouteilles de 50 centilitres pour le moment. Bon, là, il y a d'autres sujets en cours vu le prix du verre actuellement.
Oui, c'est ça.
Mais donc là aussi, il faut qu'on se réinvente et qu'on retrouve d'autres choses. Mais en gros, notre marge de manœuvre est comprise entre ça. On peut faire entre 700 et 800 hectolitres par an.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre bière d'abbaye? Parce qu'une bière d'abbaye, c'est presque une appellation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment elle s'impose sur le marché avec sa différenciation?
C'est difficile à répondre.
Qu'est-ce que vous avez recherché dans les saveurs? Pour moi, elle n'a rien de particulier. En fait, elle n'est pas issue
d'un frère. Cette bière, elle est vraiment issue de la communauté. Mmh. Rapidement, on s'est dit qu'il fallait pas faire la bière d'un frère, mais plutôt la bière de la communauté. Donc, on a monté un comité de recherche et développement où ensemble, à six frères, on a déterminé la couleur, l'amertume, les goûts, après les différents houblons qu'on voulait, si on voulait une bière un petit peu plus agrume, un petit peu plus automnale, un petit peu plus épicée. Donc voilà, on a travaillé ensemble pour se mettre d'accord sur les caractéristiques, sur le cahier des charges de la bière, et après charge au brasseur qui avait été formé de réussir à répondre à ce cahier
aujourd'hui
des charges.
Aujourd'hui, vous faites une seule typologie de bière ou vous en faites plusieurs?
Alors on en fait plusieurs. On a la première, qui est notre produit phare, qui est la Saint-Mandry, donc c'est celle-là qu'on a le plus travaillé. Et celle-là aussi, une des caractéristiques qu'on voulait vraiment acquérir, c'était un grand équilibre entre la céréale et le houblon. Parce qu'à l'époque, en 2016, où on s'est lancé, c'était le retour des IPA, des bières très houblonnées, etc. Et on s'est dit, nous, ça c'est une mode et on veut rester intemporel.
Il faut rester dans le temps.
Voilà, il faut qu'une bière, elle puisse plaire sur des générations. Mmh. Donc on voulait quelque chose de très équilibré. Donc ça, c'est notre Saint-Mandry. Après, on a monté une bière d'été qui s'appelle la Sicherheim Molonnet, qui veut dire bière de houblon en latin. Donc là, qui est pour le coup très rafraîchissante et très houblonnée, agrumes, citron. Et après, on a une bière noire. Voilà.
Pour aller sur les terres irlandaises, exactement. Renouer avec la tradition celte.
Oui, et puis même avec notre histoire même de l'abbaye, puisque Vendrille, est né du côté de Verdun, a beaucoup pérégriné avant de fonder ici. Et en fait, il a eu connaissance du monachisme colombanien. Mmh. Et ça lui a tellement plu qu'il voulait aller en Irlande pour se mettre à l'école de Saint-Colomban. Et il s'est fait arrêter à Rouen. Mmh. Et on lui a demandé, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il fonde ici. Donc il s'est fait arrêter ici.
Nos auditeurs, Saint-Colomban est un peu le père du monachisme, un petit peu en Europe aujourd'hui. Et donc beaucoup de communautés religieuses, et particulièrement Saint-Benoît, se sont inspirées.
Il y a eu beaucoup de règles mixtes entre Saint-Benoît et Saint-Colomban. Et puis Saint-Colomban, lui, a donné un grand élan monachiste.
De monachisme à travers toute l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cet atelier, frère Mathieu? Décrivez-nous un petit peu. Donc, quand on entre, on a ces quatre grands fûts. Donc, c'est là que sont stockés l'ensemble des bières qui ont fermenté.
Donc là, c'est les cuves vraiment de fermentation. On a différents stades. On va avoir une première fermentation à 20 degrés où là, on va avoir une grosse activité de la levure qui va manger le sucre. Mmh. Et une fois qu'elle a mangé le sucre, qu'elle a transformé en dioxyde de carbone et en alcool, pour stabiliser la bière, on va refroidir les fermenteurs à 0 degré. Mmh. Et là, on va garder cette bière-là pendant 3 semaines à 0 degré. Donc la bière va rester un mois dans ses fermenteurs. Donc du coup, comme on en a 4, ça nous permet de brasser 4 semaines sur 5 pour garder le rythme hebdomadaire. Après, au fond, on a la salle à brasser qui est divisée en 3 cuves. On a une chaudière.
Ouais. Ce sont ces deux grosses cuves en argent, en aluminium, avec ce petit escalier. C'est ce qu'on appelle la chaufferie, c'est en inox.
C'est la salle à brasser. La grande cuve à droite, qui n'est pas divisée en deux, c'est la chaudière. Donc, elle est contrôlée en température. Et après, on a la même dimension de cuve, mais divisée en deux. Dans la partie supérieure, une cuve filtre, qui va nous servir pour la filtration. Et en dessous, une réserve d'eau chaude. Donc après, sur le processus de brassage, on fait tomber du malt concassé dans de l'eau chaude dans la chaudière, on fait monter en température pour extraire différents sucres, et après on passe en filtration pour garder le grain dans la cuve filtre et récupérer un moût sucré qui servira de nourriture aux levures quand elles vont fermenter dedans.
Et alors en face, c'est l'embouteillage. On l'a pris un peu à l'envers, hein, parce que ça commence plutôt par ces cuves en inox, puis après ça part dans les grandes cuves de fermentation. Et puis après, l'embouteillage. Donc en fait, tout se passe ici.
Tout se passe ici. La grosse partie de la production se passe ici. On voit aussi la boutique depuis la salle à brasser. Donc
comme ça, vous
voulez aussi témoigner que c'était bien les moines qui travaillent ici.
Ouais. Et alors justement, vous êtes combien de moines à travailler dans cette brasserie?
Alors on est trois brasseurs, le frère Christian, le frère Olivier et moi-même. Et après, il y a trois autres frères qui peuvent venir nous aider quand on met en bouteille. On brasse 2 jours par semaine. Et pour brasser, il suffit d'être seul. On peut brasser tout seul. Et après, on va mettre en bouteille 1 fois par semaine. Et là, il faut être 2. Donc un frère aux bouteilles vides. Les bouteilles sont d'abord étiquetées, parce que comme on va mettre de la bière froide dedans, si on veut pas que ça condense, enfin si on veut que l'étiquette colle, on la met
avant. On la colle avant.
Et puis après, on rince les bouteilles, elles sont remplies, capsulées, elles arrivent pleines sur une table de déchargement. Et là, le deuxième frère les récupère pleines, les met dans des grands paniers où on met 500 bouteilles. Et après, on les amène en chambre chaude pour la refermentation bouteille, pour donner la prise de mousse dans la bouteille. Donc quand on embouteille, la bière est encore plate.
Alors je suppose que vous ne vendez pas uniquement dans votre boutique. Comment on travaille? Parce que ça, c'est peut-être l'autre étape après la fabrication, c'est la question du marketing, se faire connaître, imposer cette marque de la bière de Saint-Vendry. Par quel biais vous travaillez tout ça?
Un des gros avantages quand on a commencé, qui nous a un peu aiguillé sur cette piste-là, c'est qu'on avait déjà un réseau de magasins monastiques. Et donc ça, pour le coup, c'était quand même assez important, parce que sur la France, on a peut-être une trentaine ou 35 magasins monastiques qui étaient déjà prêts à vendre le produit de notre production. Donc on avait déjà 30 magasins en moins à démarcher, et 30 magasins plutôt friands de produits vraiment monastiques. Donc voilà, ça a été un...
Je crois que aussi vous êtes dans les box monastiques que nous avons interrogé il y a quelques temps déjà.
On a aussi ça, ouais. Donc nous ont contacté assez rapidement. Et puis après en Normandie, je pense qu'on a été assez bien accueillis du fait de notre histoire, parce qu'on est.
Vous êtes bien implanté,
vous êtes bien implanté.
Vous êtes dans l'histoire de la Normandie.
Dans l'histoire de la Normandie, ouais. Donc ça faisait plaisir.
Les supermarchés, donc vous allez un peu en supermarché.
On n'a pas encore démarché les supermarchés parce qu'on avait peur de pas avoir assez de volume.
Ouais.
Nous pour le moment, on vend à peu près 45% de notre production à la boutique même de l'abbaye, ce qui est déjà
bien,
très intéressant. Et après, je pense, on va dire. 5 ou 10% sur Internet. Et puis après, le reste, moitié-moitié entre les magasins monastiques et les caves à bière normandes. On essaye un peu de s'imposer sur Paris aussi maintenant.
Est-ce que vous vous imposez une quantité et un volume à ne pas dépasser? Vous disiez au début de notre échange que vous aviez un peu rassuré les gros brasseurs en disant que vous n'alliez pas faire comme vos frères belges du volume pour le volume. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, pour nous, pour l'abbaye, pour faire vivre l'abbaye, pour avoir du travail pour les moines, on ne va pas dépasser tel chiffre d'affaires, tel volume? Est-ce que c'est acté quelque part?
On n'a pas raisonné comme ça, mais c'était vraiment plutôt la vie monastique qui prime sur notre vie de brasseur et du coup qui limite notre production. La semaine pascale, la semaine de Noël, etc., c'est des semaines où on ne va pas beaucoup produire parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Et donc c'est ça qui va rythmer notre production. Et en arrivant comme ça, en moyenne, on se rend compte depuis 6 ans, on arrive à faire à peu près 35 fermenteurs par an. Voilà, c'est un peu la capacité max ou le rythme de croisière qu'on a. Si on veut augmenter ce chiffre, il faut trouver plus de place pour stocker le produit fini. Il faut trouver d'autres frères pour venir travailler à la brasserie. Donc ça, on n'en a pas beaucoup. Enfin voilà, ça remet beaucoup, ça remet l'équilibre vraiment par terre.
Au cœur du projet, c'est d'abord la vie monastique.
La vie monastique.
C'est la vie monastique, c'est le travail des frères, des moines, et on cherche pas forcément à étendre le marché, mais de continuer à avoir ce qui permet de vivre au quotidien et puis de faire rayonner aussi la vie monastique au-delà des murs.
Et voire même un peu moins que vivre, parce que la brasserie paye pas tout le quotidien des frères. Après, nous, la brasserie rapporte suffisamment, on va dire, pour payer la journée, le vêtement, la nourriture. Mais ce qui nous coûte très cher, c'est de vivre ici, les bâtiments à entretenir, etc. Et donc ça,
c'est un vrai travail aussi de restauration d'art.
C'est des sommes qui sont
énormes.
Qui sont énormes. Et en tant que religieux, nous, on est payé au SMIC. Donc c'est pas le travail de 2 ou 5 frères au SMIC
c'est une vraie question que l'on peut se poser. Vous avez monté une société à part entière pour cette brasserie de Saint-Vendry. Ça veut dire que les frères sont rémunérés, même s'ils sont rémunérés au SMIC, ils sont rémunérés au SMIC, et c'est ce salaire qui rentre dans les revenus en plus, qui rentre dans les revenus.
Alors nous, on n'a pas monté une société à part. On s'est inclus dans la boutique une société qui existe déjà. Et on n'a pas de salaire, mais donc on a fait les démarches pour être reconnu par l'État. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, nous, on touche une valeur d'entretien. Donc la structure juridique, la boutique de l'abbaye paye mon travail en valeur d'entretien à l'abbaye. Et comme ça, ça me permet aussi de cotiser pour la retraite, etc. Donc, retraite que l'ABI pourra toucher quand j'aurai...
quand vous serez plus âgé.
Si un jour on arrive...
Mais y a-t-il un âge, alors ça c'est une question d'actualité, y a-t-il un âge de la retraite, à part un âge légal de la retraite, y a-t-il un âge de la retraite pour les frères moines à la brasserie?
Non.
Il se peut qu'à 70, 75 ans, vous soyez encore brasseur, frère
Exactement,
Mathieu.
Exactement. Enfin, je l'espère. Je le souhaite. Mais disons que nous, il n'y a pas d'âge à la retraite parce que tout simplement, le travail fait partie de notre vie. Un bon travail, c'est aussi une prière. Et puis, Saint-Benoît dit dans sa règle que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Donc, quoi qu'il arrive, on travaillera toujours pour chasser les mauvaises pensées, etc. Donc,
ça, c'est bien.
Voilà, c'est un autre rapport à la... Enfin, moi qui ai travaillé un peu avant de rentrer...
Ouais.
Disons que le travail ici n'a pas du tout une fonction alimentaire, comme j'aurais pu avoir un peu dans le monde, ou un travail qui ne me plaît pas, mais je le fais pour toucher de l'argent. Et puis j'ai une autre vie à côté qui me plaît plus. Ici, on a vraiment une unité de vie entre ce qu'on fait.
C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fameuse unification de vie, l'unité de vie qui se vit autour du travail, de la prière, de la lecture, de la formation.
Exactement.
Et bien, je vous propose d'aller justement faire un petit tour à l'archivage. On l'a promis aux auditeurs.
Ouais.
On va aller faire un petit tour à l'archivage. Hop là, alors on repasse les portes.
Donc autant la brasserie est au rez-de-chaussée des bâtiments du commun, l'archivage est sous les toits.
Eh bien alors, on va monter des escaliers, vous allez nous entendre souffler peut-être.
Sous les toits, sur un bâtiment qui doit bien faire 200 mètres de long, je dirais, je sais pas. Forcément,
alors ça c'est
pas
le compresseur pour la brasserie là qu'on entend en passant.
Alors là on entend le refroidisseur
pour
la thermorégulation des fermenteurs.
Allez, on monte sur les hauteurs, hop. Donc en fait, là, on est dans ce grand bâtiment. Tout le bâtiment est dédié à l'activité économique, en fait, ici. Parce que je voyais la boutique dans le prolongement.
Activité
économique.
Bonjour
madame, bonjour monsieur. On fait une petite visite radiophonique de votre lieu. Et au-dessus de la brasserie, ben, il y a cette...
Donc voilà, là, on a un open space pour nos employés. Donc ils vont travailler tant à Arena Shenties qu'à la boutique ou à la holding H&D. Et puis ce bâtiment est aussi consacré au travail des moines, donc on a la couture, on a la mécanique, on a une ancienne boulangerie, etc.
Donc il y a quand même eu aussi une boulangerie à une période dans l'abbaye.
Oui, il y a eu, mais on a arrêté parce qu'on n'avait plus de boulanger.
C'est ça.
Donc là on passe devant l'atelier
de
rénovation.
Restauration d'œuvres d'art. On sent bien les peintures, les vernis. Hop là, je vous laisse refermer la porte. C'est assez étonnant de voir ces œuvres d'art qui traînent dans les couloirs.
Petit escalier en colimaçon.
C'est ce que j'adore. Est-ce qu'il faut refermer la porte derrière moi?
Oui, s'il vous plaît.
Hop là, je vais le faire.
Donc là, on arrive sous les toits,
ouais.
Où on a différents modes de stockage pour les cartons, soit sur palette ou soit sur rayon. Et donc, comme je vous disais, on est sur toute la longueur du bâtiment.
Et alors, tout stockage, c'est quoi? Ce sont des clients de la région qui viennent vous voir, qui n'ont pas assez d'espace et à qui vous proposez en fait, de stocker leurs documents?
On a deux gros clients qui, avec des entreprises où ils sont tenus légalement de garder longtemps des documents pour des raisons de sécurité. Donc voilà, comme ils n'ont pas la place chez eux, nous, ils nous livrent des boîtes, moi je les range. Et de temps en temps, ils me demandent, tiens, il nous faudrait telle boîte. Donc, on les sort, on leur renvoie. Donc, on a une boîte qui est dans la région et puis une boîte qui est plutôt du côté de la région parisienne.
Alors, est-ce que la next step, à un moment donné, ce ne sera pas justement l'archivage numérique, c'est-à-dire en fait de scanner tous leurs documents pour qu'ils puissent, dans des coffres-forts numériques, récupérer cette documentation? Ou alors, ils sont tenus à l'obligation de l'avoir en papier, donc ils n'ont pas d'autre choix que de le stocker chez vous?
Là, je ne sais pas. Je pense qu'eux, de temps en temps, scannent en interne. Mais voilà, d'expérience personnelle, bon, on a déjà perdu quelques disques durs, donc de temps en temps, finalement, le papier ou le livre, ça reste quand même une valeur sûre.
Ça reste une valeur sûre.
Mais donc, pour vous donner un peu une ampleur, là, on est dans une salle où on a déjà des étagères de 12 étages.
Ouais.
Et sur chaque étagère, je peux mettre deux rangées de boîtes. Donc là, on en a déjà quelques-unes. En gros, je crois qu'on a à peu près 30 000 boîtes sur place. Donc, c'est des boîtes qui vont de 10 cm à 30 cm à
peu
près.
C'est énorme. Et vous avez combien de documents, en fait, ici, au total?
Alors,
vous les avez pas comptabilisés?
Non, après, je ne sais pas combien il y a de documents dans les boîtes. Après, c'est, je ne vais pas dire que c'est comme un coffre-fort suisse, mais
vous ne regardez pas ce qu'il y a dans les boîtes.
Je regarde pas.
Et ce n'est pas fait pour ça, d'ailleurs. C'est juste... Donc, en fait, c'est toute la longueur d'un ancien bâtiment. En fait, c'est ça, des combles qui sont aménagés. Voilà,
les combles avant où on avait un peu le stock des produits monastiques, donc nos cirages. Mm-hmm. Donc, vous voyez que là, ça s'étend vraiment sur toute la longueur du bâtiment. Mm-hmm. Donc là, on est dans la troisième salle où on a une quarantaine de rangées d'étagères, où à chaque fois il y a 4 étagères par rangée.
En fait, ça fait des centaines et des centaines et des centaines de boîtes qui sont archivées. Vous n'êtes pas arrivé au bout encore du stockage ou vous allez chercher de la place un petit peu là ?
Alors, on a maintenant un autre bâtiment à l'extérieur, l'ancien transformateur électrique, où on a mis aussi des archives. Moi, j'ai récupéré cette activité-là il y a un petit peu plus d'un an. Mmh. Donc, je suis en train
de voir comment la restructurer,
de rationaliser un peu ça. Après, c'est pas une activité qui demande beaucoup de temps, mais il faut quand même de la rigueur. Et puis, il faut être disponible de temps en temps, des grandes périodes, pour pouvoir ranger les boîtes. Parce que des fois, j'ai des arrivages où j'ai 5-6 palettes d'un coup. Donc ça, il faut pouvoir les ranger, les informatiser.
Alors, est-ce qu'avec ces trois activités, il y a de quoi vivre correctement et de pouvoir faire vivre l'abbaye, ou vous êtes encore tenu à trouver d'autres sources de revenus, frère Mathieu ?
Alors, pour trouver d'autres sources de revenus, c'est plus compliqué parce que du coup, là, tous les frères sont déjà bien occupés. C'est très compliqué. Je pense qu'avec ces trois activités, plus notre activité d'accueil, on arrive à peu près à l'équilibre.
À peu près.
Le père Céléria, le comptable du monastère, nous fait un compte rendu des comptes tous les ans. Et voilà, ça arrive de temps en temps.
Il n'a pas l'air trop inquiet.
Non.
Non, pas trop inquiet.
Mais ça arrive de temps en temps qu'on n'arrive pas à boucler l'année et qu'il faille compter quand même sur quelques dons pour arriver à l'équilibre. Parce que aussi, on a des grosses dépenses sur l'entretien du monastère qui date du 16e, 17e siècle. Donc voilà, au début, l'État nous aidait à 65%, puis 50%, puis 40%. Donc voilà,
un peu moins.
Et moi, quand je suis arrivé, on était 35, maintenant on est 25. Donc du coup, ça fait un prix par personne plus élevé aussi.
Alors plus élevé par rapport à la taille des bâtiments, mais moins de personnes à entretenir aussi. Donc ça doit peut-être l'une dans l'autre doivent un petit peu plus s'équilibrer. Frère Mathieu, merci beaucoup en ce week-end pascal de nous avoir donné une vision de ce qu'est l'activité économique d'une abbaye comme celle de Saint-Vendry, de cette bière. Alors évidemment, j'invite les auditeurs qui souhaitent s'en procurer, ils peuvent aller sur Internet, sur votre boutique pour pouvoir en acheter, sur les boutiques monastiques pour pouvoir en acheter. Et puis s'ils passent du côté de chez vous, de vous arrêter à l'abbaye de l'abbaye, pour pouvoir acheter et peut-être même d'ailleurs séjourner à l'hôtellerie.
RCF, Patrick Longchamp.
Et nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. On anticipe un petit peu la nuit de Pâques et je vous propose de terminer en musique avec Patrice et Roger Martineau. Encore une fois, un extrait de la comédie musicale Marie-Madeleine à la victime de Pâques. C'est le chant de louange chanté le dimanche dans la messe de l'aurore. Eh bien, nous allons le reprendre pour terminer cette émission et les puristes m'excuseront d'anticiper la résurrection. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques, de très belles fêtes en famille. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on changera totalement de sujet.
À la victime de Pâques, promis au fond nos louanges, l'agneau sauve la brebis, le Christ innocent réconcilie les pécheurs avec son Père. La mort et la vie se sont affrontées en un duel gigantesque. Le maître de la vie était mort et le voici vivant qui règne à nouveau. Qu'as-tu vu en chemin?
J'ai vu le tombeau du Christ vivant et sa gloire de ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Il est ressuscité, le Christ, mon espoir, il vous précédera en Galilée. Ressuscité des morts, ô roi victorieux.
ciel.